Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 21 novembre prochain, quelques 15 millions de Chiliens sont appelés à élire le successeur de Sebastián Piñera, l'actuel président de droite, embourbé dans le scandale des Pandora Papers. 7 candidats sont en lice pour occuper le palais de la Moneda. Les Chiliens vont-ils mettre la barre à gauche en choisissant Gabriel Boric, 35 ans, favori des sondages, ou céder aux sirènes populistes incarnées par le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, 55 ans, défenseur de la dictature d'Augusto Pinochet et admirateur du Brésilien Jair Bolsonaro. La fin de mandat calamiteuse de Sebastián Piñera risque-t-elle de peser sur le scrutin? Dans quel sens? Quel modèle de société souhaitent les Chiliens? L'ère Pinochet avec la nouvelle constitution attendue pour juillet va-t-elle se refermer définitivement? On en débat avec 3 invités et je précise que cette émission a été enregistrée le 12 novembre. En duplex des studios France Bleu Occitanie, Franck Godichaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire et études latino-américaines à l'université Toulouse Jean Jaurès. À mes côtés en studio, Lisselle Quiroz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en études latino-américaines à Cergy Paris Université. Et Christophe Ventura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors le climat est très agité au Chili depuis plusieurs semaines. Mardi dernier, la Chambre des députés, dominée par l'opposition, a approuvé la procédure de destitution du président Sebastián Piñera, soupçonné de conflit d'intérêts dans la vente d'une compagnie minière. La procédure doit maintenant être soumise au Sénat, mais il y a peu de chances pour qu'elle aboutisse, l'opposition étant minoritaire de 5 voix à la Chambre haute. Christophe Ventura, le président Piñera, clame son innocence et dénonce une accusation fondée sur des faits trompeurs. Mais le parquet, lui, a pris au sérieux les révélations des Pandora Papers, puisqu'il a ouvert une enquête pénale.
Oui, tout à fait. Alors en fait, les faits remontent à 2009-2010. À cette époque-là, Sebastián Piñera, qui va devenir président de la République pour la première fois, puisqu'il va faire un premier mandat de 2010 à 2014, on est quelques mois avant, pendant la campagne. À ce moment-là, manifestement, il cède ses participations dans une entreprise donc qui vise à exploiter une mine, la Minera Dominga. On est dans la région de Coquimbo, qui est en fait au centre nord-ouest du Chili, on est sur la côte pacifique, où on y trouve un gisement de fer, d'or, de cuivre, très importante. Et donc, Sebastián Piñera va vendre en fait ses participations à la société d'un de ses amis d'enfance, qui s'appelle Carlos Delano, qui est un homme d'affaires comme lui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant d'être président et dirigeant du Chili, Monsieur Piñera est d'abord un peu comme une sorte de Vincent Bolloré ou de Bernard Arnault chilien.
Et l'un des hommes les plus riches
c'est
du
un
Chili.
Homme, c'est un milliardaire qui détient les actions majoritaires d'une compagnie aérienne, qui est dans un supermarché, le football, enfin l'électricité, plein de choses. Et il vend cela, donc via une société de ses fils, par une transaction dans les îles Vierges britanniques, un des paradis fiscaux de la Caraïbe, et puis avec un accord, semble-t-il, qui est que il n'y aura pas de modification réglementaire sur la, disons, le territoire où est cette mine à ciel ouvert.
Parce que les défenseurs de l'environnement veulent en faire
une
zone
protégée. Exactement, parce qu'il y a en particulier, pas que, mais aussi c'est un endroit où stationnent des phoques qui sont très protégés, mais pas que. Mais l'idée, c'est d'en faire une réserve naturelle. Et donc, il y a un engagement à ce que ce territoire ne soit jamais une zone protégée. Le petit problème, c'est que d'après, en tout cas, les Pandora Papers, eh bien, cette décision est intervenue lorsque M. Piñera était devenu président de la République pendant les premiers mois de son gouvernement. D'où le conflit d'intérêts, dont la captation, d'un pouvoir, d'une position d'influence et de domination liée à son mandat présidentiel, et donc ce qui va aboutir à une accusation constitutionnelle aujourd'hui.
Lisselle Quiroz, comment ont réagi les Chiliens à cette affaire de Pandora Papers? Est-ce que les révélations, les dernières révélations des Pandora Papers ont phagocyté la campagne électorale?
Je pense que ce qui ressort, c'est qu'il y a une grande défiance de la classe politique en général latino-américaine, et là, le Chili ne fait pas exception. Et donc, forcément, ça a un impact sur la décision. On considère qu'il y a encore la moitié des électrices et des électeurs du Chili qui sont pas tout à fait déterminés pour vers où va aller leur vote. Donc effectivement, ça a un poids et un impact. On est à un moment quand même où il y a une grande défiance des partis politiques traditionnels, de la manière de faire de la politique dans toutes les Amériques latines. Et donc là, le Chili, où on voit surgir des formes de politisation et de mobilisation politique tout à fait originales et novatrices, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est un espace aussi très intéressant depuis l'Europe à regarder, à prendre en considération.
Franck Godichaud, est-ce qu'il faut s'attendre à un fort taux d'abstention le 21 novembre qui illustrerait cette méfiance entre les partis traditionnels ou à un vote sanction contre la droite conservatrice ?
Alors oui, c'est une des questions. C'est possible qu'il y ait les deux phénomènes en même temps. Comme le disait Lissel Quiros, on est dans un espace politique où il y a une abstention très forte depuis de nombreuses années. Il faut rappeler qu'on est aussi à 2 ans de la grande révolte populaire d'octobre 2019 qui a montré vraiment un rejet massif de ce que là-bas nombre de citoyens appellent la caste politique. Et notamment, chez les classes populaires, il y a vraiment pas de participation électorale. Il y a des participations politique qui ne passe pas par l'électoral. Et donc l'inconnu, c'est jusqu'à quel point Gabriel Boric, qui prétend un peu incarner un renouveau et aussi incarner les demandes sociales, va vraiment réussir son pari, alors qu'il y a des doutes sur sa capacité à mobiliser, notamment dans les secteurs populaires. Et dans la dernière période, une montée en force très très importante de l'extrême droite, représentée donc par José Antonio Kast, qui lui prétend aussi incarner une rupture, mais à l'autre bord de l'échiquier politique.
Et Sébastien Sichel, l'avocat de 44 ans, candidat de la coalition de droite, il a perdu du terrain ces dernières semaines dans les sondages. Il n'arriverait qu'en quatrième position, avec 9% seulement des intentions de vote. Si ce score se vérifie dans les urnes, Christophe Ventura, il paierait pour cette fin de mandat houleuse de Piñera.
Il est clair que Sébastien Sichel bénéficie pas des meilleures conditions parce qu'il arrive comme le candidat du gouvernement sortant. En fait,
même s'il essaie de s'en démarquer, se démarquer de l'héritage.
Mais il est associé à cela, il fait partie de cette famille politique, donc il représente cette droite chilienne qui est au pouvoir et dont Sébastien Piñera effectivement montre aujourd'hui la difficulté à finir le mandat avec tout ce qui est en train de se passer et dont on a parlé. Donc en fait, on retrouve les tendances qu'on voit un petit peu partout en Amérique latine. C'est-à-dire que on voit bien que depuis maintenant une dizaine d'années en Amérique latine, peut-être même plus, on a des phénomènes, ça a été dit par Lissel Quiros, de défiance très forte. Vous savez, quand vous regardez les enquêtes d'opinion d'Amérique latine, c'est la région du monde où la conviction et la confiance dans les institutions, l'État, la démocratie, les partis politiques, les médias, la défiance est la plus forte du monde entier. On est dans ce contexte où finalement, les forces traditionnelles politiques, qu'elles soient de centre-droite, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de centre-gauche, classique, aujourd'hui subissent en fait des rejets très très forts dans la population et ça ouvre des scénarios qui sont très oscillatoires, très instables, qu'on peut jamais vraiment anticiper à l'avance, mais où vous avez un petit peu une prime à l'outsider qui vient quelque part au-dessus ou à côté du système en place et c'est quelque chose qu'on a vu en Amérique latine depuis le début des années 2000 sous des formes différentes, plutôt favorables à un moment un courant progressiste, à d'autres moments plutôt favorable à des mouvements plutôt réactionnaires, comme on voit aujourd'hui avec M. Kast, qui, comme ça a été dit, n'est pas le perdreau de l'année. M. Kast fait de la politique depuis très longtemps, il fait partie du système, mais il a réussi, et c'est ça, à mon avis, qui fait la différence, à l'instar de Bolsonaro, il a réussi à récupérer une colère des classes conservatrices et de la droite, un peu réactionnaire au Chili, par rapport à l'échec de son propre camp au gouvernement, par rapport au fait que Piñera, aujourd'hui, n'est plus l'homme de la situation. Et une chose importante, par rapport au fait que cet électorat-là considère que Piñera a fauté parce qu'il a concédé finalement à la rue en décembre 19 le fameux processus qui a amené à la convention constitutionnelle qui va peut-être déboucher sur une nouvelle constitution, convention présidée par une femme qui vient des peuples Mapuche, ce qui est absolument inconcevable pour, une bonne partie de l'opinion conservatrice chilienne qui impute à Sébastien Piñera cet échec et quasiment cette trahison à son propre camp. Kast a gagné et a cumulé des forces en rompant avec Piñera sur ce sujet et aujourd'hui il en touche des dividendes indéniablement en tout cas dans les enquêtes d'opinion.
Franck Godichaud, à propos de ce deuxième mandat de Sébastien Piñera, il a dû affronter, on l'a dit, la grande révolte sociale d'octobre 2019. Indépendamment de l'élection d'une assemblée constituante, hein, on reviendra là-dessus tout à l'heure, quelles leçons le président chilien a-t-il tiré de ce mouvement social? Est-ce que son gouvernement, avant que le Covid n'apparaisse, avait réussi à redresser la barre?
Alors non, je pourrais dire que non. Sébastien Piñera est vraiment au plus bas dans les sondages. C'est un des présidents depuis la transition démocratique de 89-90 qui est le plus discrédité. Et en même temps, il faut quand même souligner, hein, il y a certes un contexte régional, mais il y a vraiment des spécificités chiliennes. C'est celle d'une transition démocratique qui s'est faite de manière très pactée, négociée. Donc il y a de nombreux éléments de continuité depuis 90, la constitution, le modèle économique, et Piñera, c'est aussi le symbole de tout ça. Et malgré tout, malgré la défiance qu'il y a, il faut souligner que M. Piñera a réussi à finir son mandat. C'est probable qu'il finisse son mandat, on verra, dans les prochains mois. Donc, il n'a pas tiré les leçons, mais il a réussi malgré tout à stabiliser ce pouvoir politique, malgré la défiance extrêmement forte, les mobilisations populaires. Et donc la droite aujourd'hui est certes partiellement effondrée, mais elle n'a pas perdu, disons, la perspective pour les parlementaires de reconstituer un groupe. Elle n'a pas perdu donc cette capacité à incarner en partie les secteurs conservateurs, une partie de la bourgeoisie, mais elle est quand même défiée très fortement par l'émergence d'une extrême droite qui est beaucoup plus radicale, qui revendique directement non seulement la transition pactée, mais directement la dictature de Pinochet.
Le mouvement d'octobre 2019 avait été violemment réprimé par les forces de l'ordre. En avril, le président chilien a été accusé de crime contre l'humanité par 4 associations devant la CPI, la Cour pénale internationale. Christophe Ventura, est-ce que cette procédure a des chances d'aboutir?
Alors, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Rien ne l'indique à l'heure où on se parle. Non. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui des éléments qui permettent de dire que ça va aboutir. Mais ça joue un rôle déjà, évidemment, dans, je dirais, le discrédit général du président Piñera. C'est quelque chose sur le plan symbolique, sur le plan politique qui l'atteint d'ores et déjà. Parce qu'il est entendu que, bien qu'il faisait partie des présidents très respectés par les institutions internationales en Amérique latine, il s'est fait quand même tirer les oreilles, si j'ose dire, partout, que ce soit l'ONU, que ce soit la CPI, etc., sur la répression féroce qui a été opposée aux manifestants à l'hiver 2019. Donc c'est plutôt sur ce terrain-là symbolique que déjà il a été égratigné, enfin abîmé, mais à savoir si aujourd'hui il pourra être à la fin accusé de crimes contre l'humanité, non, je crois que c'est trop prématuré pour le savoir.
Franck Godichaud, est-ce qu'il a aussi failli sur le plan économique? Parce que selon la Banque Centrale Chilienne, la croissance du PIB en 2021 devrait atteindre 11,5%. On pourrait penser que tout va bien, or les prix augmentent, les taux d'intérêt aussi. Pourquoi ce paradoxe ?
Juste un tout petit détail avant, par rapport à ce que disait Christophe Ventura, c'est quand même intéressant de souligner qu'aujourd'hui, M. Piñera est donc accusé sous le plan constitutionnel du fait de possibles conflits d'intérêts, mais pas du fait de la répression, de la question des droits humains, ce qui est un autre paradoxe un peu de la situation politique actuelle. Alors, sur le plan économique, en fait, on se retrouve dans une situation où sur le plan macroéconomique, les grandes entreprises, le modèle exportateur chilien, notamment forestiers au sud du pays, reste très dynamique et le secteur des services également. Mais en fait, la pandémie, la grave crise économique que connaît la région latino-américaine depuis 2012-2013 a affecté profondément en fait le Chili. Ça se passe par l'inflation, mais aussi on voit une remontée très importante du travail informel, de la pauvreté, des inégalités dans un pays qui est déjà extrêmement inégalitaire. Et donc là, c'est cette crise économique qui est très présente au quotidien, finalement, avec un endettement très très fort. Elle est une donnée aussi clé de la présidentielle, puisqu'il y a le mécontentement reste très présent, et toutes les demandes sur les questions retraite, salaire, santé, sont au cœur de la présidentielle, justement parce que M. Piñera n'a absolument pas apporté des solutions à cette situation pour, disons, 75% de la population chilienne.
Alors justement, Lisselle Quiroz, ce fameux système de retraite privée qui a été mis en place sous la dictature Pinochet, est-ce qu'il faudrait le réformer. Et est-ce qu'il existe un consensus sur ce sujet parmi les différents candidats à la présidentielle?
Alors, ce système des AFP, il est, en tout cas pour la majorité de la population, un véritable problème dans la mesure où il est un symptôme justement de cette société inégalitaire. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui prennent retraite, eh bien, elles ont des retraites très limitées alors qu'elles ont cotisé lourdement. Et donc, on demande véritablement, ça fait consensus quand même qu'il faut réformer le système. Alors, pour la majorité de la population, maintenant pour les candidats qui arrivent et qui sont en tête, donc là, on a José Antonio Kast qui est plutôt favorable donc à rester sur ces formes d'organisation, disons, de distribution de la richesse. Et au contraire, Boric qui propose, alors qu'il a, lui, il incarne une gauche plus moderne, on va dire progressiste, on dirait, depuis la France. Et donc ça, c'est des questions qui sont vraiment centrales. Hein, la question, on vient de le dire, de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'éducation et surtout les différences sociales très, très importantes, hein, les disparités qui sont très importantes entre les personnes qui peuvent accéder à des salaires et des retraites convenables et puis une grande majorité de la population qui échappe et qui n'est pas du tout comprise. Et je pense que ça, c'est aussi le bilan de Pignet, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à intégrer davantage et à élargir une meilleure distribution de la richesse du pays.
Franck Godichaud, cette semaine, le Sénat chilien a rejeté une proposition de loi qui aurait permis aux Chiliens d'effectuer un quatrième retrait anticipé de 10% sur leur fonds épargne retraite privée. Le Sénat a invoqué le risque d'une nouvelle hausse de l'inflation. Est-ce que c'est un argument recevable ?
Disons que c'est un argument, oui, qui a avancé notamment par les secteurs de centre et de centre droit. Le Sénat est traditionnellement plus conservateur sur tous ces aspects-là. Mais il faut bien voir que derrière, on parle effectivement du quatrième retrait des fonds de pension. Avec ce quatrième retrait, en fait, c'est l'enterrement annoncé du système de fonds de pension au Chili mis en place durant la dictature. D'ailleurs, par le frère de Sébastien Piñera, l'actuel président. Et donc, c'est un sujet explosif hein, pour les secteurs de centre et centre-droit. Et donc là, il y a des résistances très très fortes, puisque si on va vers ce quatrième retrait, ça signifie que de toute manière, quel que soit le futur président, il faudra refonder le système de pension au Chili, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle globalement pour les Chiliens et les Chiliennes, et qui est défendue par le candidat de centre-gauche, mais pas par Kast, l'extrême droite, qui lui veut rester dans un système de marché, de capitalisation individuelle, alors que l'option de Boric, là aussi c'est intéressant de voir, hein, c'est pas une caisse vraiment socialisée par répartition qui propose une sorte d'hybride entre décapitalisation individuelle et une caisse publique générale pour avoir une retraite minimale. On reste dans des compromis malgré tout.
Il y a une autre épine dans le pied du gouvernement chilien. Deux zones amérindiennes du sud du Chili sont secouées par un conflit entre l'État et le peuple mapuche depuis près d'un mois. L'état d'urgence a été décrété dans deux régions. Franck Godichaud, quelle est l'origine de ce conflit entre l'État et les mapuches?
Alors, l'origine, on pourrait la faire remonter à l'époque...
On va pas remonter trop loin, en deux mots.
Colonial, mais en fait, évidemment, c'est un conflit entre ces communautés et l'État, qui est très très fort depuis de nombreuses années, autour des territoires de ces communautés originaires, du conflit avec les grandes entreprises forestières qui occupent leurs terres ancestrales, parfois même leur cimetière. Et donc, c'est le droit à l'autodétermination du peuple mapuche, qui est au cœur de ce conflit. Et il faut rappeler qu'actuellement, le Sud-Chili est en état d'exception, est militarisé. Et cette militarisation vient d'être conduite cette semaine par le Parlement, alors qu'il y a eu encore un mort la semaine dernière.
Lisselle Quiroz, Christophe Ventura, Franck Godichaud, je vous propose de faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr. Priorité santé.
Raphaël Constant.
Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. On continue à débattre des enjeux de la prochaine présidentielle au Chili le 21 novembre avec trois spécialistes de ce pays, Lisselle Quiroz, Christophe Ventura et Franck Godichaud. À la suite du mouvement de contestation d'octobre 2019, l'État chilien avait accepté de lancer la rédaction d'une nouvelle constitution. En mai dernier, 155 constituants ont été élus au suffrage universel direct, mais avec un taux de participation bas, 41%. Depuis 4 mois, ils planchent sur le nouveau texte qu'ils doivent remettre en juillet prochain pour qu'il soit soumis à référendum. Christophe Ventura, qui sont ces élus et quel changement faut-il attendre de cette nouvelle constitution censée clore l'ère Pinochet ?
Alors, ce projet d'une hypothétique nouvelle constitution pour le Chili, si cette convention constitutionnelle arrive à élaborer un texte commun qu'elle soumettra à un référendum quelque part entre le printemps et l'été 2022, un nouveau référendum, et les Chiliens se prononceront une nouvelle fois sur ce texte qu'ils adopteront ou qu'ils rejetteront et qui laissera l'actuelle constitution en place. Je dis tout ça parce que vous l'avez signalé, rappelons que tout ça se passe dans un pays qui est très polarisé, où il y a quand même une grande majorité de la société qui reste conservatrice, voire même assez réactionnaire, ce qui nous met caste enfin victorieux possible dans les enquêtes d'opinion à la fin, au deuxième tour. Donc on est dans ce pays-là, avec une droite qui a massivement pas participé au processus d'élection dont vous avez parlé. Donc restons prudents sur l'issue en fait du processus. Toutefois, cette convention constitutionnelle, comment elle est constituée? C'est très intéressant. C'est une débâcle pour la droite du pouvoir, puisqu'elle devait avoir, grâce à un scrutin qui lui était avantageux, qu'elle avait concocté, elle devait être majoritaire dans cette convention constitutionnelle. Or, elle ne l'est pas. La droite de Monsieur Piñera et ses alliés ne sont pas majoritaires, ils ne l'ont pas eu. Il y a une majorité qui est plutôt constituée d'une alliance entre la gauche traditionnelle, à l'intérieur de laquelle la partie radicale domine, et puis tous les indépendants, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie du système politique organisé, qui sont des candidats qui ont été élus, des candidates qui ont été élus essentiellement à partir, disons, des mouvements populaires qui ont sédimenté les dernières années de lutte sociale au Chili depuis les années 2010 et les mouvements étudiants, puis les mouvements pour les retraites, puis les mouvements pour l'eau comme bien commun, etc., etc. Tout ça ayant convergé à la fin en 2019, et tous les candidats sont issus de cette nébuleuse, on va dire, des mouvements sociaux chiliens, et c'est l'alliance entre cette gauche et eux qui peut donner cette fameuse majorité dans la convention constitutionnelle. Chaque proposition qui va intégrer le texte doit avoir une majorité des 2/3 pour pouvoir être dans le texte final. Donc chaque point est discuté, débattu. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? C'est un peu tôt aujourd'hui pour le savoir, puisque la convention, elle démarre à peine ses travaux sur le fond. Elle a dû s'organiser, elle a dû se mettre d'accord sur son règlement intérieur, elle s'est mise d'accord sur sa présidente, Madame Loncon. On commence juste à travailler après que les constituants aient fait une tournée dans le pays pour aller faire en quelque sorte récupérer les cahiers de doléances en fait de la population.
Alors justement, qu'est-ce qu'il est sorti de ces cahiers de doléances?
Ce qui est sorti
en priorité,
ce qui est sorti, c'est essentiellement des confirmations de ce que portait le mouvement de 2019. C'est un, le souhait d'une refonte démocratique du pays, un changement du système politique, des acteurs du système politique, des lois électorales. Ce qui est ressorti, c'est aussi le souhait d'une place plus grande au bien commun, en général, c'est-à-dire de faire repasser sous le contrôle démocratique les principaux services de base, que ce soit les couvertures, la protection sociale, les risques différents, divers et variés qu'on peut rencontrer au cours de la vie, que ce soit l'eau, etc., etc. C'est ce genre de choses qui est ressorti comme préoccupation importante, et une volonté aussi assez manifeste de voir plus d'égalité en fait dans la vie sociale au Chili. Pour l'instant, on est sur des items comme ça.
Lisselle Quiroz.
Oui, je voulais ajouter, en fait, il y a une sorte de mouvement de démocratisation, de demande plus importante de démocratiser ce système, la société chilienne globalement, d'un point de vue politique, économique, social, de répartir par exemple mieux la richesse. Mais aussi, il y a des mouvements, par exemple dans ce mouvement de 2019, la question des droits des femmes, et là on le voit, les mouvements féministes latino-américains sont très importants au Chili particulièrement, ça apparaît enfin, et comme justement une critique du militarisme, de virilisme des gouvernements précédents. Donc par exemple un mouvement féministe et des droits LGBT beaucoup beaucoup plus fort là. Et puis la question des autochtones, la question mapuche, elle est centrale aussi aujourd'hui dans cette nouvelle configuration politique. C'est pas un hasard et c'est un geste vraiment symbolique très important qu'Elisa Lankon soit la présidente de cette assemblée constituante. Elle est quand même une femme mapuche universitaire qui est linguiste et qui porte cette demande de reconnaissance enfin pour un peuple qui n'a jamais été reconnu dans l'histoire du Chili, la reconnaissance de leurs droits existentiels, c'est-à-dire à la vie et à leur terre, qui ont été spoliées depuis le XVIe siècle, mais surtout plus fortement depuis le XIXe.
Franck Godichaud, une parenthèse, quelle est la fiabilité des sondages au Chili? Est-ce qu'il faut s'en méfier?
Il faut s'en méfier. Alors, c'est pas spécifiquement chilien, évidemment, mais là, les dernières années, il y a eu vraiment des effondrements de la légitimité des entreprises de sondage, justement parce que tout ce qu'ils avaient annoncé sur la composition de la future convention constitutionnelle ou sur même les élections présidentielles antérieures ont été partiellement ou radicalement remis en cause par les urnes. Donc c'est très fluctuant et les sondeurs ont beaucoup de mal à vraiment avoir des évaluations assez exactes.
Franck Godichaud, en 2017, José Antonio Kast avait récolté 8% des voix lors du scrutin présidentiel, puisqu'il était candidat. Aujourd'hui, ce défenseur de la dictature de Pinochet, admirateur du très populiste président brésilien Bolsonaro, est donné en deuxième position par les sondages, derrière le jeune candidat de gauche, Gabriel Boric. Sur quel thème, précisément, José Antonio Kast fait-il campagne ?
Alors, Kast, jusque-là, il était plutôt derrière Boric, hein, mais c'est vrai que ces derniers jours, il y a une montée. Alors, il fait une campagne vraiment à l'extrême droite. C'est une sorte de bolsonarisme chilien, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, il s'en revendique ouvertement. Donc, c'est extrêmement dur, l'ordre social, la famille, le travail, et en parallèle, extrêmement néolibéral sur le plan économique, avec une revendication ouverte de l'héritage de la dictature et une campagne qui se fait aussi avec le spectre du communisme. Le candidat de centre-gauche, Gabriel Boric, est présenté comme l'incarnation d'un danger pour la stabilité du pays, type Venezuela ou même communisme, en sachant que Boric est allié avec le Parti communiste, donc on agite ce chiffon rouge. Et c'est sur cette base-là que fait la campagne Kast, plus des références religieuses conservatrices qui arrivent à mobiliser non seulement une partie de l'élite des classes dirigeantes, mais aussi dans certaines fractions des classes populaires.
Christophe Ventura, en septembre, on a vu dans le nord du Chili des manifestants brûler des tentes, des matelas, de pauvres biens appartenant à des réfugiés vénézuéliens qui avaient fui leur pays et la misère. Est-ce que la progression du candidat d'extrême droite s'explique aussi par la montée de cette xénophobie anti-migrants ?
Alors oui, comme conséquence et à la source de ça, la campagne de Monsieur Kast, elle bénéficie surtout de l'approfondissement de la crise sociale et économique générale au Chili. On l'a dit, il faut peut-être le répéter. C'est un pays qui va mal, dans lequel les inégalités sont reparties de manière très très importante depuis 2014, hein, qui a été impacté très fortement par la crise sanitaire. Bref, pauvreté, inégalité sociale, enfin tous les fléaux structurelles de cette société et d'autres en Amérique latine sont reparties vraiment de l'avant. Et aujourd'hui, la candidature de Kast, elle apparaît comme, disons, une solution pour une partie de la population face à cela. Cette solution, c'est un régime plus autoritaire. C'est un exécutif et un pouvoir fort qui, effectivement, remet l'ordre de la société, qui se bat contre toutes les formes, disons, de collectivisation ou de socialisation de l'économie. Monsieur Kast est d'abord le défenseur de la liberté des capitaux, des investissements. Et alors donc, pour revenir à la question des Vénézuéliens, bien sûr que ça joue, puisque évidemment la migration vénézuélienne au Chili qui est très importante. Hein, le Chili, c'est un des principaux pays, disons, de réception des migrants vénézuéliens après la Colombie et le Pérou, je crois. Eh bien, évidemment, ça joue dans un contexte de raréfication des ressources. Et l'immigration vénézuélienne, elle montre une chose de ce point de vue-là, encore une fois, au Chili comme ailleurs. Elle montre aussi la fragilité des systèmes sociaux des pays d'accueil, parce que elle intervient dans des pays qui ont des systèmes sociaux faibles, qui ne couvrent pas, en fait, les besoins des populations. Et comme toujours, c'est dans ce contexte-là que naît et croît le racisme, qui est d'abord, de ce point de vue-là, une question liée à une question de raréfication des ressources sociales. Et le Chili est confronté à cela. Et M. Kast joue sur du velours avec un discours d'extrême droite assez classique en la matière.
Lysel Quiroz, procès Antonio Caste a déclaré à propos de la question des migrants, il faut installer une barrière physique, pas un mur, mais un fossé. Est-ce que cette phrase a suscité la polémique ou pas ?
Il faut dire que, je préciserai, la migration au Chili, elle est quand même très importante et très récente. Dans les années 2000, il y avait 100 000 migrants et migrantes au Chili. Ils sont aujourd'hui plus d'un million 400 000. Donc vraiment, il y a eu une croissance très importante. Et Caste joue avec cette croissance qui est visible pour la majorité de la population. Pour le Venezuela, c'est 30% aujourd'hui de cette migration. Les Péruviens, 16%. Et les Haïtiens, autour de 12%. Ces arrivées massives sont instrumentalisées, utilisées à des fins politiques pour montrer comment le modèle pinochettiste, par exemple, enfin, traditionnel, disons, était convaincant, était fort. Et ça, c'est un des discours que garde quand même l'extrême droite et Caste pour maintenir le système et pas le modifier en rejetant la pierre sur les étrangers. Il y a la question de l'intégration. Est-ce qu'ils peuvent s'intégrer? Comment on va faire pour les intégrer à la culture chilienne? Donc, bon, voilà des mobilisations et des discours qu'on retrouve en Europe de la même manière.
Franck Godichaud, est-ce que dans l'électorat potentiel de Caste figurent beaucoup de nostalgiques de la dictature Pinochet ou est-ce que ce sont des gens qui se sentent exclus et qui donc sont sensibles à ces messages d'hostilité ou de répression envers des arrivées massives de migrants, etc.
Mais disons ce que fait Caste, c'est ce que fait l'extrême droite en général d'ailleurs, c'est il refait l'histoire, il invente l'histoire. Donc il y a une reconstruction de la période de la dictature de Pinochet comme une sorte d'âge de stabilité, d'ordre, de croissance économique. Et c'est là-dessus qui mobilise, avec évidemment lié à ça un discours ultranationaliste. Et donc qui va avec la xénophobie, le racisme, et sur cette base-là, mobiliser un électorat qui est assez hétérogène. Donc évidemment, les secteurs durs de la droite historique, on va dire, mais aussi avec un discours qui se présente comme de rupture, une critique de la droite traditionnelle, du centre, la démocratie chrétienne, par exemple, pour ramener à lui des déçus de ceux qui ont gouverné le Chili durant 30 ans. Et sur cette base-là, il arrive en partie à incarner un renouveau, alors que, comme ça a été dit, c'est un vieux briscard de la politique. Il a été pendant des années dans les partis de gouvernement avant de s'autonomiser sur une base beaucoup plus extrême droite.
Alors le 21 novembre, les Chiliens vont élire leur président, donc, mais aussi leurs députés et une partie des sénateurs. Est-ce qu'on saura à l'issue de ce scrutin quel modèle de société veut le peuple andin, Christophe Ventura ?
Non, on ne saura pas, d'autant que le plus probable, c'est qu'il y ait un deuxième tour.
Le 19 décembre.
Et que ce deuxième tour, il faut accepter une dose d'incertitude. On n'est pas capable de prévoir, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, si on s'en réfère à ces fameuses enquêtes qui sont à prendre avec tant de pincettes, bah, Caste gagnerait cette élection présidentielle.
Au deuxième tour.
Et de manière un peu plus large contre M. Gabriel Boric, c'est-à-dire contre la gauche. Et là, c'est le match de la polarisation dont on a parlé. Il gagnerait un peu plus largement que face à une autre personne dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est Madame Yasna Provosté, qui est en fait la démocratie chrétienne chilienne, ce centre droit dont on parle.
Et qui est arrivée longtemps en deuxième position derrière Boric,
voilà.
Et qui maintenant se retrouve
mais qui, dont
derrière
les sondages
Caste,
disent qu'elle arriverait à rassembler plus que Monsieur Boric contre Monsieur Caste, parce qu'elle récupérerait une partie de l'électorat de la droite et du centre droit pour elle, qui déserterait peut-être Caste, in fine, et donc ce serait au coude à coude. Donc là, les derniers sondages nous montrent vraiment quelque chose dans un mouchoir de poche. Donc, en fait, tout ça nous dit quoi ? Nous dit qu'il n'y a pas de réponse à la question. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans l'indétermination, l'incertitude, et dans une société, de toute façon, qui va ressortir clivée. Le Chili ne va pas sortir cette élection de manière, disons, consensuelle, conciliée, avec un projet commun. Non, le Chili va sortir de manière polarisée, clivé, avec des rapports de force politique qui vont se redessiner dans le champ politique, mais je crois quand même laisse la part belle à une société qui reste quand même assez conservatrice de manière générale, et ce qui nous ouvrira le prochain chapitre sur l'issue de la fameuse convention constitutionnelle et qui nous permettra de savoir où ça peut aller justement.
Lisselle Quiroz, vous êtes d'accord, le pays reste extrêmement clivé, d'où l'incertitude sur le résultat du scrutin?
Je suis tout à fait d'accord. En fait, il est très polarisé, mais je vois beaucoup de parallèles avec le pays voisin du Pérou, où on avait exactement une même configuration, c'est-à-dire Keiko Fujimori, l'extrême droite péruvienne, opposée à l'extrême droite gauche de Pedro Castillo, encore plus radicale que celle de Boric, et qui pourtant, alors que les sondages donnaient la victoire à Fujimori, finalement on a eu la gauche radicale qui l'a remportée. Donc, mais ça se joue vraiment jusqu'au dernier moment, donc il faut attendre, et même par exemple dans le cas du Pérou, il a fallu compter jusqu'au dernier vote, donc c'est possible qu'on soit sur cette configuration-là aussi au Chili. Et quoi qu'il en soit, en effet, la difficulté sera après, c'est-à-dire que une fois qu'on aura le vainqueur, de comment il va pouvoir gérer le pays
et rassembler
dans cette société polarisée où il n'aura pas forcément la majorité de la population avec lui. Donc c'est aussi après la grande question est comment on gouverne ces pays clivés.
Franck Godichaud, de quel œil les pays de la région et les États-Unis observent-ils cette échéance électorale au Chili ?
Alors, les États-Unis regardent de près toujours le Chili, puisque c'est un pays allié historiquement depuis les années 70 et le coup d'État contre Allende. C'est un pays qui a été allié sur le plan économique, mais aussi géopolitique. Et donc, ils regardent de très près avec une certaine appréhension, vu qu'il y a des changements importants en cours. Au niveau régional, on avait parlé il y a quelques années d'une fin de cycle des gouvernements progressistes. En fait, on voit que c'est plutôt un reflux et un rebond en partie dans d'autres pays. Donc pour le pays voisin, les pays voisins que sont le Pérou et la Bolivie, on a deux forces de gauche au pouvoir. L'arrivée potentielle d'un Gabriel Boric serait une bonne nouvelle, y compris pour l'Argentine péroniste de centre-gauche, pour faire un bloc qui ferait contrepoids en partie à l'influence de Bolsonaro en Amérique du Sud. Donc ça aura des conséquences tout à fait importantes sur la possibilité de relancer les intégrations régionales, la coopération et une nouvelle vision géopolitique de la région pour les prochaines années.
Franck Godichaud, ces dernières années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont le Chili. Pourquoi l'administration Biden semble aujourd'hui vouloir rectifier le tir ?
Eh bien, c'est l'enjeu principal qui a été tracé d'ailleurs par l'administration Biden pour l'Amérique latine. C'est reprendre pied d'une certaine manière ou être beaucoup plus à l'offensive sur le plan géopolitique en Amérique latine face à une présence chinoise qui, elle, est extrêmement agressive, enfin en tout cas très consolidée, en voie de consolidation. Donc pour l'équipe Biden, c'est vraiment freiner cette présence, en sachant que même dans des pays quasiment intégrés à l'économie états-unienne comme le Mexique, la Chine est déjà le deuxième partenaire commercial. Donc là, il y a un enjeu pour les États-Unis dans ce qui était historiquement son arrière-cour qui est considérable.
Donc la guerre larvée entre les États-Unis et la Chine se joue aussi en Amérique du Sud ?
Elle se joue directement en Amérique du Sud, au plan économique, au plan du soft power culturel, pas encore au plan militaire, parce que là, ce sont les États-Unis qui dominent, qui ont des bases militaires, alors que la Chine n'en a aucune.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Lisselle Quiroz, professeur des universités en études latino-américaines à Cergy Paris Université. Vous avez publié « Féminisme et activisme dans les Amériques » aux presses universitaires de Rouen en 2021. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, vous avez participé à l'année stratégique 2022, publié par l'IRIS, et vous êtes l'auteur du chapitre « L'Amérique latine à l'épreuve de sa reconstruction ». Et Franck Godichaud, professeur en histoire et études latino-américaines à l'Université Toulouse Jean Jaurès, vous avez publié « Chili actuel, gouverner et résister dans une société néolibérale », publié chez L'Harmattan. Je remercie au passage nos confrères de France Bleu Occitanie à Toulouse qui nous ont permis d'être en duplex avec vous. Merci également à Cécile Lavolo et Louise Calédec qui m'ont aidé à préparer cette émission, et à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. Bonne semaine et portez-vous bien.